Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Dans l'histoire et dans l'histoire du rugby,
les grandes gueules du sport.
Bon, ils les remettent dans le match. C'est tout à l'honneur. Comment dire,
Jean-Christophe Drouet.
Comment on dit, bah on sait pas. Tu te débrouilles, hein, mon cher Denis Chervec. Il est pas avec nous aujourd'hui. Il était là hier. On l'embrasse. On le retrouvera samedi prochain. Et puis on embrasse évidemment Christophe Cessieux. On en parlait en début d'émission. Il a 60 ans aujourd'hui. Rendez-vous compte. Ça veut dire que bientôt, il sera plus dans l'émission. On le retrouvera à 11h30, on va l'appeler, notre ami, évidemment, Christophe Cessieux, qui va un peu participer à cette émission. Il a fait la fête hier soir, donc il est tout excusé. Toujours avec Simon Dutin, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Philippe Saint-André. Alors dans quelques instants, le bras de fer des GG, l'OM qui reprend sa marche en avant et qui récupère sa place de dauphin du championnat. Cette victoire face à Montpellier efface-t-elle la crise? C'est un 2 contre 2. Vous n'êtes pas d'accord, mais GG. À 10h30, Arthur Fils qui chute encore face à Carlos Alcaraz. Son plafond de verre pour le moment. Faut-il arrêter l'enflammade à un mois de Roland Garros et le laisser un petit peu tranquille? Et puis 11h, Ferrari qui court toujours après son premier podium de la saison. Les pilotes sont frustrés. Est-ce que ça sent la saison Kata? On se posera la question. Et puis sachez qu'à 10h45, on en a parlé il y a une vingtaine de minutes, il y a les GG contre-attaque. Vous nous avez proposé 4 débats, mes GG, et je vous propose d'applaudir chaleureusement Simon Dutin qui a quand même 18% avec Marc Marquez.
Bravo,
bravo,
bravo.
Ah oui, vous lui avez prédit quoi? 5%, 6%,
4%, Bagnagna.
Il est à 18%. Alors il est dernier, mais il a 18%. Voilà.
Oui, mais les gens qui suivent la moto sont normalement motards, et le motard est en ce moment au 24 heures du Mans Moto, donc il n'a pas encore voté. Il se réveille à peine. La tente quechua est humide, la binouze, il monte sur les canettes vides. Bon, ils vont voter, mais ouais, ça va venir.
Ça sent la bière et le déo dehors.
Enfin
c'est juste la binouze que le déo.
C'est dans 30 minutes, hein, donc il va falloir quand même se
réveiller. Laisse-leur le temps. Il est 10h08, okay. C'est beaucoup trop tôt pour un mois.
Pour l'instant, c'est Marion Bartoli qui va nous expliquer, ça nous intéressait, hein, comment on sauve le tennis féminin.
Ministre du tennis.
Ça, franchement, on a envie de l'entendre, et pour l'instant, elle a 35%. Ok, ce sera tout à l'heure.
On est parti sur une explication de Madame la ministre.
Exactement.
Allons-y.
On attend. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation d'Henry Kissinger qui a dit un jour, il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine. Mon agenda est déjà plein.
RMC, le bras de fer GG.
C'est parti pour l'anglais, c'est au fond. Un contre-pied à terre. L'Olympique de Marseille se met sur les bourrailles et ça va peut-être enlever beaucoup de pression des épaules de l'équipe de Roberto De Zerbi.
Le public était en feu, le début de match quasi parfait. On s'est dit ça, l'OM va reprendre confiance, va dérouler. Et les mots sont toujours là.
Mourinho en centre de réparation, le petit ballon. Quentin Merlin à la barre. Le ballon est-il rentré? Amine Gouiri derrière, il y a but. But pour l'OM. Et le Vélodrome peut exulter.
On accélère, Mourinho sur la droite de la surface de réparation. Pour Rabiot, le 3-0.
Quentin Merlin, Jonathan Roy. La quatrième but de l'Olympique de Marseille. Et quel but de Jonathan Roy.
La remise pour Nicolas Pays. L'intervention défensive est derrière, il y a but. Il y a but pour le Montpellier Héros Sport Club. Attention, la bonne passe en profondeur pour Adrien Rabiot dans la surface de réparation pour le 5e. Il y a à boire et à manger dans cette prestation marseillaise, mais face au but, ça aura été clinique. 5e but marseillais.
À 5 journées de la fin, 4 pour l'Olympique de Marseille. L'OM récupère sa place de dauphin du Paris Saint-Germain après encore une semaine sous haute tension. Les Marseillais ont retrouvé le sourire hier, vous l'avez entendu, face au dernier de la Ligue 1. Notre débat ce matin dans les grandes gueules du sport, cette victoire efface-t-elle la crise? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Jérôme Pinault et Simon Dutin. Dans le coin droit, la team Non, Marion Bartoli, Philippe Saint-André. Je ne résiste pas à l'idée de vous proposer cette consultation sur X, le site des grandes gueules du sport. On vous a posé cette question et pour l'instant, c'est un 88% face à un 12%. Oula. 88% non, cette victoire n'efface pas la crise. 12% oui, Jérôme
bon,
Pinault, Simon
Dutin. Je crois qu'on a gagné,
Dutin. Philippe. On vous attend. C'est du velours pour vous, mais on va entendre les arguments, évidemment. Tout d'abord, je vous propose
d'écouter... un vœu pieux du supporter de parisien, déjà.
Mais pourquoi?
bien sûr.
Pourquoi 12% et il n'y a pas que les Parisiens qui votent.
Il y a aussi beaucoup. Appelez-nous, supporters marseillais, et on verra ce que vous en pensez. Alors, en conférence de presse hier après la rencontre, on va écouter l'entraîneur Roberto De Zerbi qui a expliqué qu'il était prêt à tout maintenant pour atteindre l'objectif, et notamment, on en parlait hier, de se mettre au vert en Italie pendant 4 semaines jusqu'à la fin du championnat. Roberto De Zerbi.
Oui, c'est vrai, avec le club, nous avons réfléchi à comment atteindre notre objectif. Ce n'est pas une punition, mais il faut qu'on se retrouve, car sur le terrain, nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons tout améliorer, dont l'état d'esprit et notre union. L'équipe a toujours su réagir quand il le fallait, avec des limites certes, mais on a toujours répondu présent. Avec Pablo Longoria et Benatia, nous avons décidé de passer quelques semaines ensemble, en compagnie des joueurs, pour préparer le match contre Brest. Cela va nous aider à savoir quels sont nos réels objectifs. C'est une valeur ajoutée pour le club. J'ai demandé de passer un mois avec les joueurs pour que toute leur concentration ne soit que sur le football. Je sais qu'ils ont des familles, mais je pense que cela peut changer une carrière et apporter une satisfaction en plus.
Ouais, je sais que ça va vous faire réagir forcément. Cette victoire efface-t-elle la crise? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Le camp du oui, ça efface la crise. Vous commencez, Simon Dutin.
Oui, parce que moi je considère qu'il n'y avait pas de crise, que nous, c'est notre métier de poser des questions chaque semaine au sujet de l'actualité, du football, et donc de l'OM qui est l'un des phares de cette discipline. Mais
5 défaites en 7 matchs, t'appelles
ça comment, toi ? D'accord, ben moi je te réponds que on est à la 33e journée, ils ont été 21 fois sur 33 deuxième du championnat, ils sont bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions, personne derrière le Paris Saint-Germain n'a autant de victoires qu'eux en championnat. Je veux bien qu'on m'explique que tout prend avec un effet de loupe des proportions gargantuesques à Marseille. Bon,
pardon, mais Rabiot qui affiche certains de ses partenaires en disant
Rabiot, il est arrivé pour ça. Emmener les autres. Il a été pendant 5 ans un joueur phare du plus grand club italien, la Juventus. Il est arrivé à Marseille dans un club qui était a priori sous-dimensionné pour ce qu'il avait déjà accompli dans sa carrière. Il est venu aussi pour ça. Si ça plaît pas à des mecs qui ont un dixième de son expérience et de son palmarès, tant pis qu'ils aillent voir ailleurs. S'ils se sentent un petit peu vexés lorsqu'un mec comme Rabiot dit on n'est pas au niveau, on fait pas les efforts, ça ne va pas, il faut se reprendre. Bon ben les gars, faut changer de discipline, ou faut au moins changer de club, faut aller jouer en Ligue 2 ou faut aller jouer le maintien. Donc je veux bien qu'on me dise que tu sais la proverbiale passion marseillaise, l'engouement, voilà. Mais pour moi, il y avait pas de crise à Marseille. Il suffisait de remettre un petit peu les choses d'aplomb et sans rentrer dans le 4-3-3, le tableau noir. Je pense que l'absence d'Heuberg et les absences en défense leur ont fait beaucoup de tort. On cherche la petite bête. Voilà, il y a des mecs qui ont assis une autorité. Benatia, on n'aime pas le style. C'est un patron sportif. On a suffisamment pointé du doigt l'absence de direction sportive. Il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a pas de lien entre le président et l'entraîneur. L'entraîneur ne sait pas ce qu'il fait. Bon, voilà, moi je pense que De Zerbi, il a son outrance italienne en disant si vous n'êtes pas content, je m'en vais. Mais au final, il est en train faire son projet. Et on va me dire ouais, c'était Montpellier, ils sont relégables et tout.
Justement.
Mais ouais, mais Montpellier, ils ont battu Monaco par exemple cette saison. D'accord, mais à la fin de saison, si Marseille finit devant
Montpellier, ils sont en crise.
C'est sûr. Ils sont même on aurait pu se poser la question.
Tu peux te moquer de cet argument-là, mais si en fin de saison, Marseille finit devant Monaco. Au classement, la victoire et la défaite de l'un et l'autre face à Montpellier, elle comptera.
Ok, alors il y a justement de tout via le Direct Studio. J'ai Thierry qui me dit j'adore la crise de la deuxième place, donc là il va dans ton sens.
Bien
et
sûr.
J'ai Michael qui me dit on n'efface pas une crise avec une victoire contre une équipe qui perd 80% de ses matchs. Tu veux y aller, Jérôme Pinault? Tu veux aider Simon?
Il n'a pas besoin
d'être aidé.
Il a déjà dit beaucoup de choses. Ce qu'il faut juste aussi prendre en considération, c'est que c'est l'OM, mais que si l'OM perd contre Brest le week-end prochain, ce sera de nouveau une crise. C'est comme ça, Marseille. Mais dans les classements, dans l'activité générale du classement, le championnat est une course par étapes longue. Simon l'a signalé, l'équipe qui a le plus gagné de matchs dans ce championnat après le Paris Saint-Germain s'appelle l'Olympique de Marseille. Dans le football, quand on gagne des matchs, on met des points. Quand on met des points, on est dans le haut du classement. Objectif affiché avant que nous tous, amoureux du club marseillais et journalistes, On s'enflamme sur 2-3 matchs, et Marseille peut-il chatouiller Paris? L'objectif était clair, deuxième ou troisième, la Champions League, deuxième c'est très bien, derrière l'intouchable Paris. Aujourd'hui, 30e journée, l'Olympique de Marseille est deuxième, juste derrière l'ogre parisien, okay. Très loin derrière, mais il est premier des autres. L'autre argument que j'avais avancé la semaine dernière, et qui s'est confirmé hier, puisque je suis de très près la Ligue 1, c'est derrière, il n'y a pas mieux. Enfin, il peut y avoir la crise à Monaco, qui n'arrive pas à battre Strasbourg, qui ne joue pas un football étincelant.
Oh bah attends, derrière... quand même, Strasbourg, c'est une des meilleures équipes de notre championnat. En tout cas, des plus séduisantes.
Ils sont cinquièmes, Strasbourg.
Ils ont 51 points. Le Racing Club de Strasbourg est l'une des équipes les séduisantes de la Ligue 1. On préfère le football de Strasbourg, très régulier, très froid, c'est propre à... Évidemment, les 7 derniers matchs de l'OM n'ont pas toujours été étincelants, mais sur la majorité des matchs que j'ai vus de l'Olympique de Marseille, je me suis beaucoup plus souvent régalé. Et j'adore Marc Keller, mais je me suis beaucoup plus régalé qu'à regarder le Racing Club de Strasbourg. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Strasbourg, il n'y a pas besoin de faire de stage pour que les gars s'entendent, parce que c'est pour ça qu'ils performent. À l'OM, c'est peut-être différent. Okay, mais
on va revenir sur cette idée de stage, évidemment, parce que je sais que ça vous fait réagir. Marion Bartoli, ça n'efface pas la crise.
Non, parce que les écarts sont infinitésimales entre les équipes. Aujourd'hui, oui, bien sûr, l'OM est deuxième à 55 points, mais Monaco est à 54. Lyon n'a pas joué, il joue contre Saint-Etienne, il joue contre le derby. Ils sont à 51 points. Alors même si je pense que ça va être dur d'enchaîner après la défaite contre United jeudi en prolongation plus tir au but et derrière le derby, mais s'ils le gagnent, ils recollent à 54 points, c'est-à-dire que t'as qu'un point d'écart avec entre le deuxième et le quatrième. Lille est à 50 points, qui reçoit Auxerre, qui n'a toujours pas joué non plus. Les écarts sont tellement faibles que si tu te plantes la semaine prochaine contre Brest ou les matchs qui te restent derrière à jouer, ça va être extrêmement compliqué de tenir même le top 3. Parce que tu vas en déplacement à Lille, on sait très bien que ça va être très 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 dur. Surtout ce match-là, il faut absolument le gagner sur un concurrent direct. Après, tu as Le Havre aussi en déplacement et tu reçois Rennes à la maison. Donc moi, la sortie de crise, en fait, pour moi, elle arrivera si tu fais un match convaincant contre Brest, qui a fait une très belle campagne de Ligue des Champions, qui est une très belle équipe cette année. Si tu arrives à nouveau à les battre à la maison en faisant un bon match, en n'étant pas, encore une fois, ridicule en défense, tu prends quand même un but contre une équipe Montpellier qui n'a pas marqué depuis deux mois. Et en défense, t'as l'impression que c'est panique à bord du Titanic à chaque fois qu'il y a un joueur de l'équipe adverse qui rentre dans la surface de réparation. Donc si t'as pas Rouli qui fait quasiment des exploits à chaque match, t'as l'impression que tu peux prendre des buts à chaque match. Donc non, la sortie de crise, elle est pas là. Surtout que Montpellier, en plus, a mis une équipe B parce qu'ils ont fait tourner. Mais alors là, c'est même plus qu'ils ont fait tourner. C'est quasiment, il y avait quasiment aucun titulaire sur la pelouse. Donc les 60 premières minutes, je suis désolée, mais tu mets pas un but dans le jeu. Le but de Mason Greenwood, c'est sur penalty. Donc les 25 dernières minutes ont été bonnes. Ok, ça a bien joué au foot, mais les 60 premières, si tu joues comme ça contre Brest, mais t'es pas au même niveau du score. Hein. Okay, si tu joues comme ça contre Lille, mais ça passe pas du tout. Donc il y a une remise en question en termes du jeu. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle De Zerbi se dit, bah écoutez les gars, là, il faut vraiment qu'on y aille à fond sur le dernier mois qui nous reste. Faisons les efforts jusqu'au bout. Mettons-nous toutes les chances de notre côté en n'ayant pas de distraction extérieure, en vraiment se regroupant et en faisant corps tous ensemble. Et puis après, vous aurez vos vacances, vous pourrez partir avec votre famille et on sera qualifié pour la Ligue des Champions. Je pense que le message plus profond au-delà de la mise au vert, c'est ça. Mais l'OM a vraiment montré deux visages hier. Hein. Je suis désolée, les 60 premières minutes, c'était moyen, voire... peut être un peu plus dur dans les commentaires si on n'aime pas l'OM.
Alors vous voulez en parler de cette mise au vert et je sais que Philippe va nous dire des choses, lui qui a été évidemment entraîneur, qui va continuer de l'être. Le dernier match de championnat, c'est le 17 mai. Nous sommes le 20 avril, donc un petit peu moins d'un mois. Est-ce que tu y crois ça? Il dit que c'est pas une punition, vous l'avez entendu en conférence de presse, cette mise au vert géante pendant un mois, loin des familles, tout ça, pour se remobiliser, se ressouder, même s'il n'y a pas de crise visiblement, mais se remobiliser vers cet objectif commun, Philippe.
Bon, déjà, quand on parle de l'OM, moi, je suis toujours d'accord avec Marion.
C'est juste que tu veux pas prendre le bat perdu, quoi.
Alors après, sur un stage avant la fin de saison, c'est cohérent pour remettre les objectifs, pour remettre du lien ensemble, mais de vouloir partir pendant 4-5 semaines. Enfin, pour moi, c'est complètement invraisemblable. Au contraire, s'il fait cela, il risque de se mettre une partie des joueurs à dos. Que tu partes 7-8 jours pour un objectif, oui, mais partir un mois et demi, de t'entraîner en dehors de l'OM, que les joueurs soient loin de leur famille, sincèrement...
Oui, mais vous avez bien compris que c'est 4 fois une semaine renouvelable. Ils vont revenir à chaque fois pour parce qu'il y a des matchs à jouer. Vous l'avez bien compris. Donc on peut même imaginer que les soirs où ils vont jouer leur match à domicile, ils vont dormir à la maison et repartir le lendemain.
Bon, enfin, c'est voilà. Pas parce que tu passes deux heures avec ta famille.
Non, mais je pense peut-être que Deuxerbi, l'Italie lui manque, c'est ça. Donc, il a dit, on va aller en Italie.
Non, mais non,
c'est ce que j'ai dit.
Non, mais je comprends le fond du problème là-dessus.
Non, mais le fond du problème, sur une semaine, d'accord, mais
quatre semaines parti de chez toi, un coureur cycliste, il part trois, quatre fois, cinq fois dans l'année, quatre semaines loin de chez lui.
On partir quatre fois, c'est pas très grave.
Il va s'en remettre. Ils vont s'en remettre. Et les joueurs tennis,
sincèrement, dans les sports collectifs, déjà, tu es plus souvent ensemble qu'avec ta famille. Donc, tu vis toute l'année ensemble. Que tu partes sur des stages de 5-6 jours, il n'y a aucun problème. Mais que tu partes en fin de saison, 4 semaines, en plus que tu as des matchs à domicile à la piole, sincèrement, moi, j'en ai essayé. Quand tu joues à domicile, la meilleure solution, c'est que les joueurs dorment chez eux. Ils dorment mieux dans leur lit que de dormir à l'hôtel. Sincèrement, ils sont tout le temps en dehors, ils sont tout le temps en voyage. Donc, faire des stages de 5-6 jours avant les phases finales, avant le dernier sprint, ça c'est cohérent de remettre.
C'est de ça qu'on parle, Philippe.
Mais c'est un mois.
C'est 4 fois 5 jours avant les 4 derniers matchs de la saison avant le sprint.
C'est pas 4 fois 5 jours, c'est un mois.
C'est un mois. Ils disent, je veux. 5 jours. Ils vont pas, comme je vous dis, ils vont repasser par la maison, au moins pour faire la lessive, j'en sais rien. Ils vont jouer des matchs à domicile, à l'extérieur.
Soir de match, on rentre à la maison.
C'est une vraie
question qu'on a. Moi je l'ai constaté en tant que manager. J'ai duré beaucoup moins longtemps que toi sans avoir les résultats que tu as eu, mais je l'ai constaté quand même. La nouvelle génération, alors on va me tomber dessus à chaque fois, on va me dire ouais, tu peux les emmener partout où tu veux pour faire de la cohésion, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que t'as trois quarts des gamins que t'emmènes en stage. Moi, je l'ai constaté dans mes équipes. Les jeunes coureurs, nous, les anciens, après le dîner, on restait dans le lobby, un thé, un café, on papote, on échange sur tout. Les gamins aujourd'hui, ils sont, on mange, je monte, téléphone, ordi, mes data, mes réseaux, je redescends, je roule, je monte.
Je suis pas du tout d'accord avec toi.
Alors, c'est dans mon sport, peut-être.
Non, c'est pas, c'est
moi, je vois pas comment. Ces mecs qui se balancent des pics dans les journaux. On règle le compte dans la presse. Je vois pas comment. Allez, viens, on va aller se faire un petit billard tous les deux. On va boire une binouze et ça va bien se passer. Je vois pas le truc.
Moi, sincèrement, on critique ces jeunes. Je suis complètement à l'opposé de ça. C'est des mecs, ils sont plus professionnels que nos générations. Ils font attention à la bouffe, ils font attention à la récupération, ils prennent plein d'informations. Par contre, il faut les manager complètement différents. Ils doivent être partie prenante sur la stratégie, ils doivent être importants dans la vie de tous les jours. Et si tu mets des règles avec eux, nous au rugby on met des règles ensemble, ils n'ont pas le droit au téléphone à table. On essaye de passer des bons moments ensemble. Par contre, ils sont présents dans la stratégie. Ils font la présentation. Ils ont l'impression d'être au milieu du fonctionnement. Eh ben, ça marche très, très bien. Et au contraire, c'est des mecs, il faut les nourrir en permanence. C'est pour ça que nous, dans les staffs, on a 25, 26 personnes. On a besoin d'experts. On a besoin de personnes qui les nourrissent. Alors, par contre, si jamais tu dis une connerie, eux, bien sûr, ils ont le téléphone, ils vérifient tout. Si jamais tu leur dis une connerie, ils vont te zapper complètement. Mais c'est des joueurs.
Oui,
par contre, une chose qui est importante, et c'est pour ça,
c'est pour cela
que je te dis qu'avec cette génération, les 4-5 semaines ne fonctionnent pas. C'est aussi que le bien vivre ensemble est important au niveau sportif, mais au niveau dans la vie de famille, c'est-à-dire d'aller chercher leur enfant à l'école, ça peut être important. Et donc de les priver de ça pendant 4-5 semaines au niveau du management, qui peut au contraire se mettre le vestiaire à dos.
Ok, Marion, tu peux réagir.
Je pense qu'en fait, Deuxerbi a analysé, parce qu'on voit très bien qu'il y a quand même des performances de Mason Greenwood, de Luis Enrique, qui sont extrêmement en dents de scie, et qu'à Marseille, pour connaître un petit peu cette ville, il y a quand même beaucoup de tentations. Et que je pense que, même si ça n'a pas été dit dans la presse, etc., il y a certainement eu des remontées en interne. Vous saviez très bien ce que faisait Bernard Tapie à l'époque, qui mettait des gens devant toutes les boîtes de nuit pour s'assurer que les joueurs ne sortent pas, etc. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, voilà, si on est sûr au moins qu'après les entraînements, ils font les récup, ils vont se coucher, ils mangent correctement, ils récupèrent, et qu'on fait ça, ok, en mode un petit peu stage commando, pas en 4 semaines, mais qu'on a des Rabiot, des joueurs qui sont vraiment cadres, qui sont complètement en accord avec ce projet et qui veulent au contraire pousser, qui expliquent aux jeunes si parfois il y a des dérives, qu'il faut rester fixé sur les objectifs et que si entre guillemets sont pas contents, et là je rejoins totalement Simon, mais ils ont qu'à partir dans un autre club ou revoir les objectifs à la baisse, mais que l'OM a ces objectifs-là et que l'OM ne fera pas en dessous de ça, je pense que là-dessus il a raison. Après, je pense que c'est adaptable. Je crois qu'ils vont faire ça avant Brest, ils vont voir comment les joueurs vont se comporter, peut-être qu'ensuite ils vont demander à certains joueurs est-ce que tu veux continuer dans ce schéma-là ou finalement tu préfères faire autrement. Je pense que c'est pas un cadre qui va être totalement rigide et fixe, mais c'est pour aussi faire comprendre aux joueurs qu'il y a une institution au-dessus, qui est l'Olympique de Marseille, que les joueurs sont employés de l'institution et qu'à un moment donné, comme tout le monde est aligné sur le même objectif, il faut suivre. Mais je crois que ce cadre-là ne sera pas totalement rigide en leur disant, quoi qu'il arrive, vous faites vos valises pendant un mois et puis vous nous suivez et puis vous n'avez rien à dire. Okay. Je pense que ça sera réellement adaptable. Mais il y a aussi un coup de poing sur la table donné par l'institution, par l'Olympique de Marseille, en disant, voilà, il y a 4 matchs à aller chercher, les gars. Et là, ce n'est pas le moment de se planter.
Jérôme Pino, le mot de la fin, tu voulais réagir, mais c'est passionnant de vous écouter sur ce domaine-là.
Dans le cadre d'un stage, pour faire le métier, pour faire bien son travail et être pro, ça s'entend. Pour la cohésion, j'y crois absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de saison. Donc tu fais un stage de cohésion au départ, quand les gens se connaissent pas. Là, les clans, s'il y en a, ils sont faits. Et c'est pas en 4 matchs et en un stage d'un mois
que tu vas remettre les objectifs. Je suis d'accord avec toi. C'est
pour remettre les objectifs. Par contre, pour remettre l'objectif et dire, les gars, soyez sérieux et pro, je m'en tape si vous n'êtes pas copains. Mais on a un objectif, comment il faut qu'on y arrive. Là, d'accord.
C'est clair.
Si c'est pour recréer du lien, c'est
plus pour mais le stage commando avec ces jeunes générations.
Ça peut être trop long, je suis d'accord avec toi.
C'est que 5-6 jours. Parce que s'ils ont le feu à la maison aussi, pour qu'un joueur soit bon sur le terrain, il faut aussi qu'il soit bien dans sa vie et il faut qu'il soit bien dans sa famille. Sincèrement, le management, il faut s'adapter. Avant, on avait un management vertical. Maintenant, c'est un management participatif. Et donc, c'est au manager de s'adapter aux jeunes générations.
Enfin, l'OM 2e à 4 journées de la fin, j'ai connu des crises à l'OM.
Oui, bien sûr. Voilà.
Okay.
On a gagné combien de pourcents ?
10h28.
Attends, si, évidemment. On a fait basculer la France.
Je vais regarder. Mais moi, c'est comme là. J'ai pas le droit de prendre mon téléphone. C'est comme les joueurs à table, les copains. Alors, je le prends quand même, mon téléphone.
100 euros dans le ventre.
Nous, dans le vélo, c'est 10, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens dans les sports. Hein.
89%, 11%. Vous avez même perdu 1%.
Qu'est-ce que tu veux ? Pourtant, vous avez été bon, sincèrement.
On s'est battu.
Non, je vous ai trouvé bon, engagé, exceptionnel. Non, c'est à la Wilson.
Sincèrement.
Philippe, je crois qu'on fait une bonne équipe. On fait un beau duo, Philippe.
Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler d'Arthur Fils. Est-ce qu'il faut arrêter l'enflammade et le laisser tranquille ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Merci de votre fidélité. On est toujours avec Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Simon Dutin, Jérôme Pino. Dans moins de 10 minutes maintenant, les jugés contre-attaque. Vous avez proposé 4 débats. Vous pouvez toujours aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais on est bien parti pour une victoire de Marion qui va nous expliquer comment sortir de cette crise. Dans le tennis féminin. Ok les copains, vous allez prendre des notes. Gilles Moreton nous écoute. Bah justement, Gilles Moreton, on en parle tout de suite. La revanche de Monte Carlo a tourné court. Hier, Arthur Fils a de nouveau été battu par Carlos Alcaraz en demi-finale du tournoi de Barcelone. 2 petits sets, 6-2, 6-4. Et contrairement au premier épisode monégasque, le Français n'a jamais pu inquiéter l'Espagnol. Alors tout de même, depuis quelques semaines et des prestations extrêmement convaincantes, le tennis français se prend à rêver. Et si c'était lui l'élu, à l'image de Gilles Moreton, cette semaine, le président de la Fédération française de tennis. C'était sur RMC, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Arthur a l'ambition, parce qu'il faut de l'ambition, mais pas simplement l'ambition pour l'ambition, c'est l'ambition pour le travail. Aujourd'hui, son objectif, c'est de gagner un grand chelem. Il le dit. Arthur a cette ambition-là. Cette ambition, c'est de dire, je peux battre tous les joueurs devant moi. Et il l'a fait déjà. Donc, il est capable. Oui, il a le potentiel de gagner un grand chelem, de gagner un Roland-Garros.
Et voilà, c'est dit. Faut-il arrêter l'enflammade à un mois de Roland-Garros ? Oui ou non ? Simon Dutin.
Oui.
Marion Bartoli.
Plutôt oui.
Philippe Saint-André.
Non.
Jérôme Pino.
Non.
Ah bah décidément, on n'a que du deux noms de oui aujourd'hui. Vous êtes fantastique, mais j'ai avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis qui a suivi ce match hier. Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut, alors il peut battre salut, tout le monde, c'est ce que dit Gilles Moreton, mais bon, force est de constater que c'est encore un plafond de verre, hein, Carlos Alcaraz pour le Français.
Oui, on va pas s'emballer, mais c'est vrai qu'hier j'étais au commentaire, il y a un élément que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai lu sa déclaration auprès de la journaliste de l'équipe, parce que l'équipe a envoyé quelqu'un exprès pour la demi-finale. Hein, je vous le notez-le au passage. Il a jamais trouvé ses sensations, donc ça a été un match très moyen, l'un de ses matchs les plus moyens depuis un mois et demi. Mais en face, c'est quand même Carlos Alcaraz qui est le maître des lieux, qui a déjà deux titres là-bas. Donc on le met de côté. Moi, ce qui m'inquiète un peu, ce que je sens, c'est une sorte d'usure mentale et physique, parce qu'il a beaucoup joué depuis un mois et demi. Et j'ai l'impression qu'il faudrait, comme les joueurs de l'OM, alors là c'est l'inverse, il faudrait des plages de repos. Tu vois, il faudrait qu'il rentre chez lui un peu pour couper et repartir de l'avant. Sauf que dans le tennis, tu peux pas t'arrêter. Il y a Madrid qui arrive. Madrid, tu peux pas te présenter là-bas à la dernière seconde parce que c'est un tournoi qui est très particulier à cause de l'altitude. Novak Djokovic est déjà sur place, par exemple. Donc, il faut lui laisser le temps. Il y a des paliers à franchir, mais moi je suis très optimiste. Mais le juge de paix, à mon avis, ce sera le tirage au sort de Roland Garros, parce que si jamais il est dans une partie de tableau favorable, là je le dis tout haut, il pourra viser le dernier carré.
Ok, et tu le dis tout haut, et t'as bien raison, dans cette émission, tu te mouilles, mon cher Eric Salio. Marion Bartoli, pourquoi faut arrêter l'enflammade ?
Alors effectivement, bon, qu'Eric n'ait pas vu qu'il y ait du vent, t'avais pas la télé, t'avais pas le moniteur, Eric, je sais pas. Faudra que tu m'expliques cette partie-là. Mais pour Carlos Alcaraz et Arthur Fils, on n'est pas du tout dans les mêmes temps de passage. Je vous rappelle quand même que Carlos Alcaraz, ils ont pile un an d'écart, puisque Arthur Fils est né en juin 2004, Alcaraz est de mai 2003. Donc il y a un an et un mois. Carlos Alcaraz emportait l'US Open en 2022, à 19 ans. Il a déjà 4 tournois du Grand Chelem. Il a 6 Master 1000. Quand il se présente à Monte Carlo, il sort d'une défaite extrêmement rapide à Miami en perdant sur David Goffin. Il est extrêmement loin de son plus haut niveau. Alors, j'ai été la première à le dire et à l'encourager. Je pense qu'Arthur a réalisé des progrès qui sont extrêmement importants dans son jeu, notamment côté revers, où il n'était pas du tout capable auparavant de faire mal à ce genre de joueur, où il avait plutôt des revers de défense. Aujourd'hui, côté revers comme côté coup droit, il est capable de rentrer dans le terrain, de mettre des points gagnants, de partir en longue ligne, de monter au filet. Donc, il y a une progression dans son jeu qui soit extrêmement nette, qui lui permette de jouer aujourd'hui entre 7 et 10. J'en suis totalement convaincue. J'étais la première à le dire. En revanche, gagner un tournoi du Grand Chelem, on parle de complètement autre chose. On parle d'aller gagner potentiellement 7 matchs en 5-7 pendant 2 semaines. Je rappelle quand même qu'Arthur, pour l'instant, n'a jamais remporté un seul match à Roland-Garros. Son meilleur résultat, ça a été à Wimbledon sur un 8e de finale contre Alex de Minaur. D'ailleurs, on attendait beaucoup lui à l'US Open. Il perd au 2e tour contre Diallo, qui est un joueur canadien d'un classement qui est bien inférieur à lui. Donc, il faut lui laisser le temps. Qui soit capable dans 4 ou 5 ans d'aller chercher Roland Garros, j'en suis totalement convaincue. En revanche, Sinner, quand il va revenir, il n'est pas là pour enfiler les perles. Moi, Sinner, je l'ai vu jouer pendant la préparation hivernale à Dubaï contre Karen Khachanov, en train de faire un match d'entraînement, assez entraînement. Khachanov, on parle d'un joueur quand même qui est 18e mondial. Si Khachanov a marqué 3 points dans tout cet entraînement, ça a été le maximum. Il a pris 6-0. Le gars, il était dégoûté. Donc, quand Sinner, il va revenir, il va pas falloir se dire, non, mais Sinner, il a aucune chance de gagner Roland Garros. Sinner, il va avoir plus que de grandes chances de gagner Roland Garros. Djokovic, quand il va revenir sur un tournoi du Grand Chelem, il n'est pas là non plus pour regarder les autres gagner. Donc déjà, ça vous fait 3 joueurs qui ont une expérience avec Djokovic qui a 24 tournois du Grand Chelem, Alcaraz qui est tenant du titre à Roland Garros et Sinner qui marche sur l'eau sur dur et qui est sur terre battue, a fait beaucoup de progrès. Donc ça va être très 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 dur. En revanche, qu'il ait le potentiel pour faire, qu'il ait l'ego, qu'il ait toutes les qualités physiques et qu'il lui faille un tout petit peu de temps. Oui, donnons-lui ce temps-là. Okay. Pour cette année, ça me paraît quand même extrêmement juste. En revanche, un tirage favorable, le public qui s'enflamme, le public qui pousse, il prend un tout petit peu de repos avant Roland. Allez viser une demi, j'en suis convaincue. Mais allez gagner le titre, on part d'aller battre 3 joueurs.
Ce serait déjà une prestation déjà remarquable pour un joueur qui n'a pas encore gagné un match à Roland. Vas-y, toi tu veux t'enflammer. Vas-y,
ben oui, enflamme-toi, Jérôme. C'est justement pour ça. Alors, on parle pas aux spécialistes de tennis. Là, on parle aux gens comme moi qui suivent ce sport par Roland, par les grands tournois. Et on a besoin de ça, d'avoir des Français, des jeunes qui montent. Et on a besoin de s'enflammer. On a envie de s'enflammer. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de suivre cette espèce de courant fils qui m'emmène vers l'espoir de le voir. Alors, il va falloir gagner plus qu'un match, mais briller à Roland et ensuite aller gagner des grands tournois. On a besoin de ça. Nous, dans tous les sports. L'autre jour, on parlait des Français dans le cyclisme. Oui, on a besoin de Français pour s'enflammer, pour qu'ils nous emmènent. Là, on n'a personne. Alors, apparemment, on va avoir une solution rapidement. Là, Marion va nous en donner chez les filles. Elle vient de loin. On va plutôt s'enflammer.
Ah, pour le coup, filles, oui. Là, ça vient plus loin. Là.
Et moi, j'ai envie de ça. Et puis, quoi de plus normal qu'un président de fédération, quoi qu'il soit,
qui nous décrit.
Exactement. Et moi, j'ai envie de le suivre. Ce sont des lanceurs d'alerte, des gens qui mettent une ambiance, qui mettent une espèce de,
non, mais là, je suis d'accord,
de fil rouge
toi.
Sur une perf. Et moi, dans le wagon fils, là, j'y monte. Parce que, on
non,
en parle,
première...
parce que, même si, et puis le match d'hier, Alcaraz, du vent, Eric, moi, j'ai déjà fait des courses de vélo, au départ, je suis parti, j'avais pas vu qu'il y avait du vent. Et je me suis aperçu, quand j'ai pris vent de face.
Non, mais là, en tennis, tu t'en aperçois vite qu'il y a du vent, ça, je peux t'assurer.
Oui,
non,
mais
là,
ça arrive,
là où je rejoins totalement. Non, mais là où je rejoins totalement Gilles, et je te rejoins aussi.
T'as envie d'y aller.
Non, mais je te rejoins aussi. De toute façon, le président, il est totalement dans ce rôle. Il faut absolument promouvoir le tennis français. Et en plus, il a le potentiel. Donc, il est totalement dans ce rôle. La première semaine de Roland-Garros a réussi sur deux choses. Ça va être la cérémonie pour Rafael Nadal, qui va être le dimanche, qui va être un moment qui va être extrêmement intense pour le tournoi. Dommage à Rafael Nadal. Et Arthur Fils, qui va performer sur la première semaine et qui va passer la première semaine. Ça va être ça, les deux points les plus importants, je pense, pour la première semaine de Roland-Garros. Donc, que le président, à quelques jours du début de Roland-Garros, soit dans ce sujet-là, c'est complètement en raccord par rapport à son rôle. Okay. Je suis totalement d'accord là-dessus. En revanche, cette année, ça me paraît quand même un peu juste.
Voilà. Simon. Moi, je suis plutôt d'accord avec Marion. Le président, il n'a pas dit qu'il allait gagner cette année. Il dit qu'il peut gagner Roland-Garros.
C'est parce que j'ai dit.
Il embrasse un petit peu le. Non, mais c'est pour.
Mais un président de Fédé, pardon, mais un président de Fédé dans le tennis. Ce qu'il dit, il peut gagner un grand chelem, c'est oui, pas arrivé souvent non plus, les copains.
Roland arrive bientôt, j'en suis bien conscient. C'est vrai qu'il a fait quand même une tournée américaine intéressante. Il a certainement payé ses efforts, malgré le vent d'hier. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu de fatigue hier. Mais bon, on a bien vu que quand Carlos Alcaraz accélère et visiblement, lui, il a retrouvé un petit peu de jus, il n'y a quand même pas encore match. Donc voilà pourquoi il faut arrêter l'enflammade. Parce que Alcaraz, parce que Djokovic. Parce que tu rajoutes Zverev, Casper Ruud, Sinner évidemment, parce que 1983 Yannick Noah, parce que dès que on s'y croit, la déception, il n'est pas à l'abri. Alors là, j'en parlais avec Eric hier, de se faire cirer par un 500e costaricien au premier tour. À 19h sur le.
Oui, mais on a besoin quand même de ça, non, Simon. Même si ça, évidemment que la probabilité qu'il se fasse sortir et qu'il gagne par Roland, elle est plus forte qu'il gagne. Aujourd'hui, et notamment dans ce sport, dans le tennis, on attend quand même la succession, comme dans le vélo, on attend la succession de Bernard Hinault. On attend quand même. Un exploit français et à quelques semaines, quelques jours du tournoi le plus important pour nous français, d'avoir ce message-là et de se dire bah voilà, on a un gamin qui monte. Parce que imagine, on est dans la même situation dans le tennis masculin que dans le tennis féminin. Tu le regardes toi, Roland Garros? Moi, je regarde pas. Moi, je suis pas un impressionnable.
Je regarde et je suis fan. Moi, je regarde plutôt plus la première semaine que la deuxième. J'adore justement quand il y a des matchs sur tous les courts et que justement on découvre. Et chaque année, on a des Français justement qui nous font un exploit au premier tour. Justement, ça se termine à la nuit tombée. Voilà, moi, c'est pour ça que j'aime Roland Garros depuis des années. C'est pas parce que j'espère qu'un Français va gagner. Sinon, ça fait longtemps que je regarderai plus. Mais je pense Philippe que après. C'est lui mettre. Même si Marion l'a rappelé, il arrive avec
il gère bien
confiance
ça, ouais.
Et justement, il assume ses ambitions et c'est assez nouveau plutôt que de dire ah écoutez voilà on va... je trouve ça intéressant. Je pense que c'est encore un peu tôt et qu'il faudrait d'abord qu'il commence par goûter à la deuxième semaine à Roland-Garros, déjà le deuxième tour et éventuellement la deuxième semaine. Oh, okay. On en reparle après.
Philippe.
Ouais, mais moi je trouve que Gilles Moreton, c'est bien ce qu'il fait. Enfin, il donne de l'espoir. Voilà, il donne de l'espoir. On a un jeune. Potentiel, qui a le potentiel de gagner un grand chelem. Alors, il ne dit pas qu'il va le gagner cette année, mais sincèrement, depuis combien d'années les médias, oui, pas un Français en deuxième semaine, pas une Française en deuxième semaine, donc j'ai envie de dire, si jamais il arrive à passer la première semaine et d'être là en deuxième semaine et de montrer ce potentiel.
Ça
sera déjà une réussite.
Oui,
donc, tu es obligé d'avoir l'enflammade. Marion, tu vas nous expliquer, voilà, tu vas nous donner des solutions pour le tennis féminin.
Prenez note.
Oui, mais on a besoin de Français, on a besoin de Françaises. Même moi, je suis d'accord avec toi, j'adore Roland Garros, j'adore les premiers tours, les
les exploits, les 5-7, les crampes, les cils, le public, mais
le vent,
la pluie, maintenant c'est des matchs la nuit.
Attention,
après, tu vas avoir une discothèque, etc.
Il y a du vent de Barcelone qui arrive.
Mais cette tempête, mais d'avoir enfin un Français ou une Française qui peut gagner un grand chelem, voilà, ça fait
exactement.
Plaisir.
On s'enflamme. On aime s'enflammer.
Ok, les amis, on va arrêter ce débat. De toute façon, Eric, t'as envie de t'enflammer, toi aussi.
Couvre-toi bien, Eric. Hein,
c'est le vent de l'histoire de s'enflammer.
Hein. C'est vrai. Bravo.
Très génial.
Bravo, Eric. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Eric. À très vite.
Une grande nouvelle.
Je vais mettre le casse-col.
Christophe Cessieux est réveillé.
Oui. On vient
là.
Ah, il est là.
Voilà.
Ah.
Les 3 fois 20 ans.
A priori, il n'a pas tout dans l'ordre, mais voilà. Il est réveillé.
10h45, il est réveillé.
Mon ami est là.
Ah, voilà. Bon, on va l'appeler à 11h30. Notre ami Christophe Cessieux qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Hein. 60 ans, c'est pas rien.
C'est beau.
Hein, c'est pas rien. C'est bientôt. Allez, c'est pas rien. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure, Christophe Cessieux. Nous, on se retrouve dans quelques instants parce que Marion a gagné, je vous le dis tout de suite. Et Marion va nous dire pourquoi et comment faire.
J'aime bien gagner,
pour
dis donc.
Remettre une Française dans le top 100.
Dans le top 10.
Alors là, oui.
Alors
là, faut absolument être avec nous.
Prenez vos stylos, je vais tout vous expliquer.
On pourrait commencer par le top 100. Hein.
Bon. Oui.
Mais arrête d'être méchant.
Marion est ambitieuse. À tout de suite sur RMC.
Oui.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec ce matin Simon Dutin, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Philippe Saint-André à partir de 11h. Le dossier Ferrari qui court toujours après son premier podium de la saison. Vous écouterez les pilotes qui sont frustrés, qui sont un petit peu inquiets. Est-ce que ça sent la saison Qatar? Vous nous direz évidemment ce que vous en pensez. Vous venez participer à cette émission au 32-16. Mais tout de suite les GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. La dernière place, c'était attendu. Il s'y attendait. Il voulait parler de MotoGP, de Marc Marquez. 19% tout de même pour Simon Dutin. Bravo, Simon.
Il ne voulait pas en parler.
Peut-être, mais belle bataille en tout cas. La limitation.
On reviendra avec Marquez une fois qu'il aura gagné 4, 5, 6 grands prix d'affilée. On le reproposera.
On reviendra. Limitation des braquets dans le cyclisme. Tu étais contre. Eh ben, les auditeurs sont contre pour en parler. 23% pour toi.
Les auditeurs, je suis sûr qu'ils veulent que ça continue comme ça. Hein. De la vitesse, encore plus de vitesse.
Ok, 24% pour Philippe Saint-André, le grand chelem féminin. Il est deuxième. Bravo, mon cher Philippe. Mais non.
Good game.
Ce matin, good Philippe, game. Nous allons parler de tennis féminin. Comment sauver le tennis féminin? Proposé par Marion Bartoli. Avant de t'écouter, Marion, je vous propose, c'était la semaine dernière, Julien Beneteau, GG évidemment de cette émission, également le patron de l'équipe féminine de notre équipe de France, eh bien, il a voulu pousser un coup de gueule pour que les filles se remettent en question. On écoute Julien Beneteau et ensuite c'est à Marion.
Je pense qu'il y a eu des mauvaises politiques dans le passé. Je pense qu'il y a eu une mauvaise représentativité aussi et une considération du tennis féminin au sein de la fédération avec des entraîneurs, quand ils sont mis sur le tennis féminin, ont l'impression d'être déclassés, ont l'impression d'être dévalorisés. Ça a créé tout un état d'esprit, un système qui ne fonctionne pas. Je pense que l'hyper-individualisation chez les toutes petites, à part un projet très très fort, ça ne fait que isoler la jeune fille avec son entraîneur. Le groupe peut être important, l'émulation de groupe, mais pour ça, il faut élargir la base. Il faut mettre des éducateurs chez les jeunes et des entraîneurs qui ont envie et qui ont les compétences pour tout ça. Donc ça va prendre énormément de temps.
Ça va prendre énormément de temps, forcément, après ces déclarations, on peut être inquiet. Marion, comment faire? Il y a eu quelques pistes de réflexion de la part de Julien Beneteau. Comment faire pour sortir le tennis féminin? On t'écoute.
Alors, pour ma part, je vais vous donner un exemple personnel parce que pour moi, c'est celui que je retiens aujourd'hui quand j'essaye d'entraîner 2 jeunes, puisque je m'occupe de 2 jeunes à l'entraînement, qui sont pas français, qui sont indiens, mais je m'en occupe au quotidien, qui ont 15 et 16 ans. Et je les ai eus depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans, donc je suis complètement dans la formation. Et dans la formation, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris moi-même. Ce qui fait le haut niveau, c'est l'apprentissage au quotidien de l'esprit du haut niveau. Et l'esprit du haut niveau, c'est quoi? C'est l'intensité maximum dans tout ce qu'on fait. Et là où je rejoins Julien un petit peu dans ce qu'il a dit, mais j'aimerais l'approfondir de manière plus détaillée, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas un entraîneur ou une entraîneur, et j'aimerais vraiment développer ce point, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs femmes qui s'occupent des filles, et je pense que pour s'occuper des filles, il faut comprendre la psychologie féminine, et qu'on la quand même comprend beaucoup mieux quand on a été soi-même une enfant qui a eu 14, 15 ou 16 ans et qui voulait faire du tennis professionnel et qu'on a parcouru ce chemin. Déjà, ça, c'est un point. Mais cette psychologie-là et l'intensité que vous, en tant qu'entraîneur, vous devez donner à vos élèves au quotidien, elle est tout aussi importante dans l'équation finale, dans le résultat final, que ce que la joueuse va mettre sur le terrain elle-même. Donc, l'entraîneur ou la personne qui est associée à la joueuse doit avoir une attitude qui doit être totalement irréprochable. Et ça prend beaucoup d'énergie. Je le vois moi-même depuis les trois dernières années où je m'occupe de ces deux enfants. Là-dessus, je pense que de très loin, beaucoup d'entraîneurs n'ont pas du tout été irréprochables. Ça, c'est pour commencer. Le deuxième point, il faut se frotter au meilleur, et ça depuis tout jeune. Le moment moi, où j'ai appris le plus, c'est lorsque j'ai disputé les Petits As, qui est le championnat du monde, on va dire, des moins de 14 ans. J'avais perdu au premier tour des qualifications. La joueuse qui a gagné l'édition cette année-là a fait une carrière en simple bien moins bonne que la mienne, mais c'est elle qui avait gagné. Et j'avais suivi Dinara Safina, la sœur de Marat Safin. J'avais été sa sparring partner pendant une semaine. Donc sa mère, je me disais à quelle heure je vais être sur le terrain pour échauffer Dinara, à quelle heure on devait faire un deuxième entraînement, etc. J'ai plus appris pendant une semaine que tous les stages que j'avais fait avec la direction technique nationale en France, tous les stages régionaux, parce que j'étais entraînée par un directeur régional, parce que j'étais parmi les meilleurs de ma région, etc., etc. Pour ça, il faut absolument aller voir les pays de l'Est. Aujourd'hui, les filles qui sont le mieux formées, qui arrivent le plus jeunes, qui réussissent le plus, c'est dans deux endroits. C'est aux États-Unis et dans les pays de l'Est. Je vous citais une gamine qui a 14 ans, qui est qui vient de République tchèque. Elle gagne déjà des $35,000 pro. Pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, c'est déjà le deuxième échelon des tournois professionnels. Elle n'a que 14 ans. Elle est top 15 mondiale des ITF juniors, qui est une catégorie des moins de 18. Nous, en France, on continue à faire jouer nos juniors jusqu'à l'âge de 17, 18 ans. C'est beaucoup trop tard. Donc, il faut revenir sur deux points essentiels. Un, mettre des entraîneurs ou des entraîneurs féminins qui soient absolument motivés à 1000% pour entraîner des filles. Et ça, c'est très loin d'être le cas. Deux, avoir des entraîneurs beaucoup plus féminines pour s'occuper des filles. Arrêtez de mettre que des hommes pour s'occuper des filles. La psychologie féminine est très compliquée à comprendre et à gérer. Et les filles semblent beaucoup plus à l'aise à s'ouvrir et à partager des moments avec d'autres femmes plutôt qu'avec des garçons. Et trois, se les faire confronter par rapport à d'autres joueuses étrangères depuis le plus jeune âge. Et même si elles prennent des tolls au début, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas parce que tu prends une tolle à 13, 14 ans que les choses n'ont pas changé à 18. Donc, pour moi, tout ça n'a pas été fait pendant des années et des années. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un constat. On a Caroline Garcia qui est plutôt sur la fin de sa carrière, qui est 99e. On va pas lui demander de porter l'étendard du tennis français à elle toute seule, alors qu'elle est plutôt sur la fin que sur le début. Alizé Cornet qui revient de sa retraite. On l'a envoyé en Fed Cup. Encore une fois, elle n'était pas là au départ pour jouer le simple. Il n'y avait plus aucune joueuse. Tout le monde était blessé. Donc, ça a été elle qui, la pauvre, a été envoyée sur le terrain pour pouvoir jouer. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais tu peux pas demander à une joueuse qui sort de sa retraite de venir sauver le tennis français. C'est aux jeunes de s'y mettre. Et les jeunes, c'est qui? C'est Diane Parry, qui a 22 ans. C'est Cara Burel, qui a 24 ans. Et c'est Elja Jacquemot, qui a 21 ans. C'est elles qui doivent être le moteur du tennis français aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'elles ont fait dans leur parcours junior et ce qu'elles font dans le parcours adulte, force est de constater qu'aujourd'hui, la transition sur un parcours d'élite avec une intensité maximale demandée au quotidien, et c'est pas Julien qui me contredira sur certaines choses qu'il a eues en Fed Cup, elle est loin d'être présente. Et ça, tu le payes forcément à un moment donné. Mais encore une fois, ça doit être inculqué dès le début. Quand tu fais tes rassemblements, faut bien comprendre que nous, dans le tennis français, on fait nos premiers rassemblements dès qu'on a l'âge de 8 ans, on est détecté en France. 8 ans, tu fais partie des meilleurs de ton département et ta région, tu es déjà détecté, tu fais déjà des rassemblements. Donc les détections, elles sont faites depuis extrêmement jeunes pour des jeunes qui ont envie de faire du tennis de manière plus poussée que du tennis loisir. Dès ce moment-là, il faut inculquer l'intensité maximale, comprendre ce qu'est l'intensité maximale, amener des jeunes faire des stages avec des jeunes tchèques du même âge, des jeunes américaines du même âge. C'est comme ça, dans une confrontation, et pas uniquement dans une confrontation franco-française. Faut arrêter de penser que le tennis français est le centre du monde. C'est pas parce que tu es numéro 1 en France que tu vas être numéro 1 mondial. Donc, aujourd'hui, le tennis est un sport mondial. Il faut se confronter au niveau mondial. Et ça, depuis le plus jeune âge. Et si t'es pas au niveau, eh ben, tu repars bosser. Mais c'est plus facile de repartir bosser quand t'as 10, 11, 12 ans et de rattraper le retard plutôt que t'en apercevoir quand t'en as 18.
Le projet de Marion, c'était très clair. C'était en trois points. Et on imagine que la fédération française, oui, la France,
oui,
française de tennis a écouté ce plaidoyer. On sent que ça te porte.
Au revoir.
aux tripes. En tout cas, Marion, et tu as voulu nous dire ce que tu en pensais de ce tennis féminin. Et forcément, ça te fait mal de constater les échecs à répétition. C'était très intéressant, en tout cas, de t'écouter là-dessus. Il est 10h56, les copains. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de Formule 1. Jean-Luc Roy vient d'arriver dans le studio RMC. Tiens, je lui dis bonjour. Ah, salut Jean-Luc, ça va?
Eh ben oui, très bien. Et vous?
Si t'es là, c'est que ça sent le débat.
Là, ça sent le débat.
Le débat Ferrari.
Le débat rouge, le débat rouge.
Exactement. Mais oui. Est-ce que ça sent la saison 4?
Allez, Lewis.
Il est venu avec la sienne, on l'a entendu arriver.
Oui, oui.
Ferrari à deux roues, c'est rare.
Dire que lui, il ne fait pas du 50 sur le périph'. Hein. On le connaît.
Il a plus de permis.
Tu sais. Il n'a pas changé les braquets, lui, t'inquiète.
Ça va, t'as un passeport pas que français.
C'est ça.
Hein. Allez, à tout de suite sur RMC pour parler de Ferrari.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.